Entraînement 3, exercice 1.
Au lendemain de la Journée internationale des femmes, patron, chef d'entreprise, reçoit aujourd'hui la directrice générale du groupe Pierre et Vacances Center Parcs. Bonjour Françoise Gris.
Bonjour.
Avant de prendre la direction de cette institution dans le secteur du tourisme, vous avez fait carrière et dirigé IBM France, puis Manpower Group France et Europe du Sud. Vous voilà chez Pierre et Vacances depuis peu pour redresser l'entreprise confrontée pour la première fois à des pertes et à un plan social. Et la première question vous est posée par Isabelle Raymond du service économique de France Info.
Pierre et Vacances est confronté à des pertes, elles sont énormes, près de 27,5 millions d'euros. Comment est-ce que vous comptez faire pour redresser la barre?
Alors, elles sont importantes. Elles sont pas énormes, mais elles sont importantes. Elles sont importantes aussi, bien sûr, dans la tête de tous les collaborateurs qui sont confrontés, effectivement, comme vous le dites, à quelque chose de totalement nouveau pour eux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut faire un diagnostic, travailler sur les choses qui peuvent être redressées immédiatement, d'où le plan d'économie en cours et évidemment, ce plan social qui est aussi une décision difficile à prendre, mais qui est absolument nécessaire.
195 emplois supprimés.
En France. Et puis, évidemment, travailler sur le long terme, ou le moyen terme d'ailleurs, parce que le long terme se raccourcit. Et travailler sur le positionnement de ce superbe groupe qui a des atouts à faire valoir, et y compris dans une période de crise, mais qui doit remontrer comment cette offre de proximité correspond à des comportements d'achat, travailler sur sa relation avec ses clients, travailler sur le digital et donc, je dirais, embrasser cet environnement qui change de façon très profonde parce que le tourisme est sans doute à la pointe d'une transformation, la transformation du numérique.
Françoise Gris, directrice générale du groupe Pierre et Vacances, ce qui a fait le succès de l'entreprise, c'est à la fois la location mais surtout la vente d'appartements. Est-ce que ce modèle économique est encore viable?
Alors, c'est plus compliqué que ça puisque c'est effectivement un modèle économique qui arrive à financer un développement par un financement particulier, qui avait d'ailleurs un certain nombre d'incitations de la part du gouvernement. Et c'est un modèle qui est vertueux parce que c'est difficile de financer du développement, et en particulier du développement touristique. Donc c'est un modèle qui effectivement a subi un certain nombre d'évolutions négatives dans le temps. Pourquoi? Parce que par exemple, ces loyers que nous versons aux propriétaires qui ont investi dans les appartements étaient indexés sur l'index de la consommation qui a largement plus progressé que les loyers. Donc des effets très perturbants sur des exercices économiques de long terme, mais fondamentalement c'est un modèle vertueux. Et d'ailleurs, nous voyons que nous pouvons le développer en Allemagne. Nous avons aujourd'hui un nouveau Center Parcs que nous ouvrons en Allemagne avec le même principe, sans incitation fiscale, et qui prouve que le modèle fonctionne.
Vous avez un parcours qui est très impressionnant. Vous avez été avant Pierre et Vacances chez Manpower, chez IBM. Comment est-ce qu'on arrive à la tête d'une grande entreprise quand on porte pas de cravate?
En ne se mettant pas de barrières inutiles, en se disant que les choses sont possibles et qu'il n'y a pas une espèce de fatalité ou une impossibilité pour les femmes à prendre le job d'après ou à grandir ou à progresser dans l'entreprise. Alors ça, c'est la première des clés, se dire qu'il n'y a pas de barrières. Et puis ensuite, effectivement, il faut aussi trouver des points d'appui. Dans ces grands groupes internationaux, je dirais que la prise de conscience de la nécessité de la diversité, de l'intérêt de la parité est une évidence. Elle est d'une évidence depuis plus longtemps que les entreprises françaises ne le comprennent. Et en plus, IBM est une entreprise qui a failli mourir d'une pensée unique à un moment donné, complètement décalée de son marché. Donc ce sujet d'avoir plusieurs angles de vue était important, stratégique pour l'entreprise, et clairement j'en ai bénéficié. Mais il y a un donnant-donnant et un contrat, je dirais, entre l'entreprise et une personne, une femme dans l'entreprise qui doit être passée.
Alors la ministre des Droits des Femmes, Najat Vallaud-Belkacem, vient de faire une proposition pour sanctionner financièrement les entreprises qui ne respectent pas l'égalité salariale homme-femme, ou en tout cas qui n'émettent pas la volonté de revenir sur cette inégalité. Qu'en pensez-vous?
Écoutez, je pense que c'est bien, mais on en est à la énième initiative sur le sujet. Donc je pense que le problème est plus complexe qu'il n'y paraît. Je pense qu'il faut clairement qu'il y ait des incitations, et quand on dit incitations, elles peuvent être positives et négatives, et je pense que ça fait partie du jeu, mais d'évidence, il faut maintenant que les entreprises réalisent que c'est important, que les talents féminins sont des talents qui sont sous-exploités globalement. rapidement et que c'est important pour la compétitivité des entreprises que leurs collaborateurs ou leurs collaboratrices soient justement rémunérés et que les chemins de carrière soient équivalents parce que c'est important pour l'entreprise. Donc, je pense que la loi fait des choses, mais d'évidence, ça ne suffit pas.